Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. En ce lundi 13 décembre 2021, nous avons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Les trois pays européens signataires de l'accord nucléaire auraient accepté les deux textes iraniens, se demande Al-Shahr al-Owsat. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, le ministre iranien des Affaires étrangères met l'accent sur le développement du commerce et du tourisme avec les pays voisins. Le peuple iranien attend l'extradition des criminels financiers vivant au Canada au nom du respect des droits de l'homme, a déclaré Téhéran. Et puis la Russie menace de réponse militaire à l'expansion de l'OTAN. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères met l'accent sur le développement du commerce et du tourisme avec les pays voisins. Lors d'une réunion avec les chefs de délégation diplomatique de la République islamique d'Iran dans les pays voisins, le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur le développement du tourisme avec ces pays. Au deuxième jour de la réunion des chefs des délégations diplomatiques et des ambassadeurs de la République islamique d'Iran dans les pays voisins, le ministre iranien des Affaires étrangères, le ministre iranien de l'Intérieur, ainsi qu'aux 17 gouverneurs des provinces frontalières, ainsi que le secrétaire du Conseil suprême des zones économiques libres et le président de la Commission des conseils et des affaires intérieures, ont insisté sur l'amélioration de la coopération avec les pays voisins. Lors de la rencontre, le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, évoquant l'importance de prêter attention aux pays voisins, a évoqué les nombreuses opportunités disponibles dans la région et a exprimé l'importance accordée aux pays de la région par le cadre de la vision 2025 de la République islamique d'Iran. Il a exprimé son espoir que les ambassadeurs et les gouverneurs des provinces frontalières utiliseraient toutes les capacités existantes dans la région et augmenteraient le dynamisme avec un plan commun de coopération globale avec les pays voisins. Le peuple iranien attend l'extradition des criminels financiers vivant au Canada. Le gouvernement iranien, réagissant dimanche par la voix de son porte-parole au souci spectacle du gouvernement canadien en matière des droits de l'homme, affiché à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a écrit « Le peuple iranien attend l'extradition des criminels financiers d'origine iranienne vivant au Canada et la restitution des biens publics pillés ». Ali Bahodori Jahromi a écrit sur son compte Twitter « Les actions et spectacles du gouvernement canadien à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme ne sont pas dignes d'un pays engagé. » Certes, la fin du spectacle d'un pays qui s'est transformé en paradis des détourneurs de l'argent ne serait que cela. Les médias canadiens ont rapporté hier que le service de l'immigration de leur pays avait renvoyé en Iran un ex-agent de la SAVAK, terrible service de sécurité intérieure, les services de renseignement de l'Iran, entre 1957 et 1979, sous le règne despotique du régime autoritaire déchu de Mohammad Reza Pahlavi, qui vivait illégalement dans le pays depuis 24 ans. Certains délinquants économiques condamnés en Iran se sont réfugiés au Canada et vivent tranquillement dans le pays qui s'oppose en défenseur des droits de l'homme. Covid-19, 86% des Iraniens ont reçu la première dose de vaccin. Actuellement, le taux d'injection de la première dose de vaccin dans le pays est de 86% et le taux d'injection de la deuxième dose à Téhéran et dans le pays est respectivement de 76% et 74%, et environ 2 millions de personnes ont reçu leur troisième dose. A annoncé ce dimanche le ministre iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale. Bahram Einollahi a qualifié de très efficace la vaccination pour prévenir la maladie mortelle de COVID-19 en réduisant les effets secondaires et a exprimé l'espoir de voir la participation de tous. Le ministre de la Santé, qualifiant d'unique les services médicaux iraniens dans la région, a déclaré « Avant la révolution, nous étions dépendants d'autres pays et nous ne pouvions même pas guérir de nombreuses maladies simples. Mais aujourd'hui, nous sommes au sommet des sciences médicales et la situation est bonne dans toutes les régions du pays. » Suite à l'extension de la campagne de vaccination et au respect des consignes sanitaires par le peuple, l'épidémie a reculé et la tendance baissière continue dans le pays, un net recul par rapport au mois précédent. La sécurité alimentaire, une des priorités de l'Iran pour développer la coopération agricole avec l'Union européenne. Le directeur général du Bureau des affaires internationales du ministère iranien de l'Agriculture, se référant à l'approche principale du ministère dans la création de la sécurité alimentaire et la fourniture d'une alimentation saine pour le pays, a énuméré les questions prioritaires pour la coopération avec l'Union européenne. Ali Mourad Sarafrazi, lors d'une réunion conjointe avec les représentants de l'Union européenne, a déclaré « L'Iran et l'Union européenne avaient eu une bonne coopération dans le domaine de l'agriculture, mais cette coopération a diminué ces dernières années en raison des conditions des sanctions. » Exprimant l'espoir de la reprise de cette coopération, ce responsable iranien a ajouté « Des projets communs prédéfinis sont suspendus en raison de la pandémie du Covid au ministère iranien de l'agriculture. Il y a des priorités pour la coopération avec l'Union européenne. » Le premier ministre israélien Naftali Bennett s'est entretenu avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed, lors d'une visite aux Émirats arabes unis. Bennett est ainsi devenu le premier ministre israélien à se rendre dans un pays du Golfe Persique. L'Organisation de libération de la Palestine a déclaré que la visite viole le consensus arabe qui est censé soutenir la cause palestinienne au milieu des défis imposés par Israël. Les Palestiniens ont qualifié la normalisation arabe de coup dans le dos. Les Palestiniens de Naplouse, en Cisjordanie occupée, font grève après le meurtre d'un jeune Palestinien par les forces israéliennes. Les médias locaux disent que la grève se propage dans toute la ville. Jamil Al-Kayal a succombé aux blessures qu'il a subies lors d'un raid à l'aube des troupes israéliennes sur la ville. L'homme de 31 ans est mort après avoir été touché à la tête par des tirs après un affrontement dans le quartier de Ras Al Ain à Naplouse, provoqué suite à un assaut d'arrestation des militaires israéliens, rapportent les sources. Enfin, la Russie a mis en garde par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères les États-Unis et l'OTAN contre sa réponse militaire en réaction aux agissements expansionnistes de l'Alliance occidentale vers ses frontières. La menace de Sergueï Ryabkov fait suite aux plaintes de Moscou concernant le déploiement d'armes de l'OTAN en Europe de l'Est et aux portes de ses frontières et aux avertissements occidentaux contre une prétendue invasion imminente de l'Ukraine par la Russie. Notre réponse sera militaire si le bloc militaire occidental ne garantit pas la fin de son expansion vers l'Est, a déclaré le diplomate. Il n'y a fondamentalement aucune confiance dans l'OTAN, a déclaré le haut diplomate. Par conséquent, nous ne nous jouons plus à ce genre de jeu et ne croyons pas aux assurances de l'OTAN, a-t-il conclu. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Les trois pays européens auraient accepté les deux textes iraniens, Al-Sharq al-Awsat. Le journal saoudien Al-Sharq al-Awsat a fait part de l'augmentation ces deux derniers jours des réunions à Vienne entre les délégations européennes et iraniennes et de l'acceptation des dispositions que la partie iranienne a proposées pour la réécriture de l'accord nucléaire. Le quotidien saoudien Al-Sharq al-Awsat a cité des sources européennes selon lesquelles les réunions des deux comités d'experts pour discuter des sanctions américaines et des questions nucléaires ont augmenté ces deux derniers jours. Le rapport annonce « Les parties européennes ont examiné les détails des deux nouveaux projets de l'Iran au cours des deux derniers jours ». Les projets que l'Iran a présentés la semaine dernière et ils ont demandé leur inclusion dans le projet des pourparlers précédents. Le journal précise, les Européens n'ont pas initialement accepté les deux projets et pensé qu'ils ne pouvaient servir de base à aucune négociation. Ils ont finalement reculé et ont accepté de les ajouter au projet principal. Des sources proches du quotidien ont également indiqué que les chefs des délégations européennes avaient récemment informé leur ministre des Affaires étrangères du résumé des négociations de Vienne lors du 7e round de négociations et que ces derniers avaient également rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour discuter avec lui de l'Iran. Se référant à des sources européennes, le média arabe souligne le représentant spécial des États-Unis pour l'Iran, Robert Malley, qui se trouve actuellement à Liverpool, attend que la délégation iranienne adoucisse sa position pour qu'il puisse également se rendre à Vienne. Le négociateur en chef du nucléaire iranien, Ali Bareri Khani, a déclaré qu'à la suite des interactions et des réunions tenues ces derniers jours au niveau des experts et des hauts responsables des négociations, les divergences ont fait partie sur la portée des questions négociables avaient diminué. Il a ajouté que les positions des deux parties sont différentes et que cette divergence est plus ou moins grande selon les domaines traités. Il a souligné qu'il y avait eu néanmoins une importante évolution ces derniers jours et que c'était le fait que les divergences entre les parties sur la portée des questions négociables avaient diminué. Dans une interview à l'IRNA, il a affirmé « Il est naturel que les deux parties soient en désaccord sur les questions en discussion, même dans les pourparlers déjà réalisés en 6 rounds à Vienne. Nous avons vu de nombreux cas où il y avait des différences entre les parties et ces différences ont demeuré tout au long des rounds successifs. » En ce qui concerne la qualité du texte de l'accord sur la levée des sanctions américaines, Borrelli a déclaré « Les sanctions ont été imposées par les Américains. Il est vrai qu'elles ont été appliquées par certains autres pays, mais les Américains ont imposé des sanctions illégales et oppressives contre notre nation. Les Américains doivent, a-t-il ajouté, assumer la responsabilité de la levée de ces sanctions. Ils ont eux-mêmes annoncé vouloir retourner à l'accord nucléaire et se voir à nouveau parmi les membres de l'accord. » Évidemment, l'un des principaux objectifs des 4+1, à savoir Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne d'une part, et de l'autre l'Iran, dans les nombreuses réunions, a été d'élaborer des conditions que les Américains n'ont qu'à accepter pour rejoindre de nouveau l'accord. La condition la plus cruciale est la levée des sanctions dressées contre le peuple iranien. Le négociateur en chef de la République islamique d'Iran a par ailleurs souligné « Nous sommes convaincus que dans un avenir prévisible, nous mènerons les pourparlers jusqu'à une issue positive. Pour ce qui est du succès des pourparlers, Alibor Erikani a déclaré « Nous sommes optimistes quant au prochain processus de négociation en raison de la forte logique de nos positions, les logiques et les principes qui sont même acceptés de l'autre côté. Nous avons une vision optimiste vis-à-vis des pourparlers, mais nous n'oublierons jamais les actions hostiles, illégales, destructrices et même inhumaines de certaines parties, et notre nation garde un très mauvais souvenir de ces actions hostiles. »
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 10 décembre 2021. Une agression israélienne au missile a visé des conteneurs au port de Latakia dans l'ouest de la Syrie dans la nuit de lundi à mardi 7 décembre. C'est la première fois depuis le début du conflit en Syrie en 2011 qu'Israël cible en effet le principal port commercial de la Syrie. Et cette attaque survient dans un contexte de recrudescence des frappes israéliennes contre la Syrie au cours des dernières semaines. Toutefois, cette attaque n'est pas moins risquée, d'autant plus que, en effet, la base aérienne de Khmeimim, la base aérienne russe de Khmeimim, mais aussi l'installation navale de la Russie à Tartous, se trouve à proximité de ce port commercial. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette aventure, cette attaque risquée de l'entité israélienne contre la Syrie, ses conséquences et bien entendu une probable riposte de l'axe de la résistance mais aussi de la Russie. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Y a-t-il un quelconque lien entre un avion et L-20 avec près de 20 des meilleurs officiers de renseignement russes à bord qu'un F-16 israélien qui a fait abattre en 2018 par S-200 syrien interposé en s'en servant comme d'un bouclier et ce, dans le strict objectif de bousiller les réseaux de renseignement satellitaires russes au-dessus de la Syrie et partant, rendre la tâche plus facile à ses bombardiers d'une part et ses missiles de croisière air-sol qui viennent de frapper le territoire syrien ce 7 décembre. Bien sûr que oui, si on se rappelle que dans l'un comme dans l'autre cas, c'est Latakia, soit la côte ouest syrienne, réputée être le front anti-OTAN de la Russie en Méditerranée, puisqu'abritant deux de ses principales bases extraterritoriales, Khmeimim et Tartous, qui a été ciblée, et que les missiles, air-sol israéliens qui en ont été responsables, bien qu'interceptés et détruits en majorité par des batteries de Pantsirès, sont parvenus tout de même, pour deux d'entre eux, à percer le puissant bouclier antimissile russe et à s'abattre respectivement à 25 à 85 km de Khmeimim et de Tartous. En 2018, cette culottée tentative israélienne de faire liquider les généraux russes au-dessus de Latakia, zone qui, tout raison gardée, pourrait être la première à être assaillie, si jamais l'idée venait aux Otaniens de tenter une opération de débarquement comme celle qu'ils ont tentée sans succès. En été et en pleine Crimée, a valu à Tel Aviv l'apparition choc dans l'arsenal syrien des batteries de missiles S-300 qui, pour n'avoir jamais été activées depuis, continue néanmoins à inspirer les pires craintes au camp d'en face. Or, ce 7 décembre, le camp d'en face, US-Israël, a franchi non pas un seul, mais une centaine de pas en une fois, en frappant sous prétexte d'avoir à y anéantir les cargaisons maritimes de missiles iraniens, le parc de conteneurs de Latakia, là où arrivent des dizaines, voire des centaines de cargos, de pétroliers, de navires, pour y décharger pétrole, denrées alimentaires et autres produits de base non seulement en provenance de l'Iran, mais aussi depuis la Russie. Après tout, les sionistes russophones sont peut-être bien chers à Moscou, mais pas autant que l'avenir énergétique de la Grande Fédération de la Russie en Méditerranée. Les accords d'Abraham, littéralement ratatinés par l'axe de la résistance dans le golfe Persique, les Émirats, voire l'Arabie, étant de plus en plus enclins à renouer avec l'Iran, il est grand temps que les effets s'en fassent aussi ressentir en Méditerranée orientale, où Israël nourrissait il y a peu, couper le transit du gaz russe vers l'Europe. Ces quelques mots, particulièrement acerbes, du ministre des Affaires étrangères syrien Faisal Merdod à Téhéran, où il a affirmé qu'une réponse par avion ne tarderait pas à être donnée aux raids aériens d'Israël, ne devraient pas être prises à la légère, l'armée russe ayant commencé dès le 17 novembre à apprendre aux pilotes syriens comment se battre contre les F-16 israéliens une fois au volant des MiG-29. Et ces MiG-29 décolleront de Latakia.
Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Paris avec Philippe Hugon, journaliste et reporter de guerre, et depuis Toulouse avec Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Canaban, à tous vos auditeurs et à notre ami.
Monsieur le professeur, je l'ai dit en début d'émission, c'est la première fois depuis 2011 qu'Israël, en effet, a pris ce risque de lancer une attaque contre le principal port commercial de la Syrie, non loin des bases aériennes et navales russes. Pourquoi cette aventure risquée?
À notre avis, c'est parce que Israël cherche à engager les Américains à ses côtés, c'est-à-dire à paralyser toute initiative américaine, par exemple, je répète, qui pourrait et qui jugerait être peu conforme ou non conforme à ses intérêts. Ceci est vraisemblable, en effet, parce que nous avons quand même des, disons, soit directement, soit indirectement, autour des conversations de Vienne, par exemple, et autour, disons, de la reprise des négociations de Vienne, constater qu'il y a une attitude, disons, un pas en avant, un pas en arrière des Américains, mais il y a quand même, disons, une présence. Or, ceci gêne les Israéliens, et ils savent qu'ils peuvent réagir contre n'importe quelle attitude. C'est-à-dire, ils ont une certaine autonomie, car ils savent qu'ils sont défendus, qu'ils auront toujours, que ce soit en Europe, chez nous, ou que ce soit en Occident, disons, c'est-à-dire dans le domaine de l'OTAN, ou aux États-Unis même, qu'ils auront toujours des soutiens. Donc, ils se livrent à une provocation qui est très risquée. Vous l'avez souligné, c'est la première fois que l'attaquer, au lieu des amis d'ailleurs depuis longtemps, des amis tunisiens et syriens, que l'attaquer a été visée. Je crois que Israël peut le faire en toute impunité, car il sait qu'il ne sera pas condamné, voyez-vous. Donc, c'est quand même un sauf-conduit. Je donnerai comme exemple, permettez-moi de revenir sur de voir ça du point de vue de la scène française. Je vois une candidate qui se présente aux élections, quand elle a pu dire que c'était une femme qui se présentait, elle a trouvé comme premier exemple dans l'histoire Madame Golda Meir, voyez-vous. Donc, ça signifie que, disons, Israël fait partie, disons, de l'OTAN, fait partie de l'Europe. Ce n'est pas du tout un paradoxe de la défense européenne, comme, et naturellement, s'il sait aussi qu'il peut avoir, avec une certaine effronterie, engager la Russie dans une riposte. Car n'oublions pas qu'Israël était parrainé, j'ai l'occasion de le dire chez vous, parrainé par, comme un serpent à deux têtes, par la Russie et les États-Unis. Et donc, il sait qu'il a des appuis en Russie même. Ce ne sont pas des appuis de la même importance, de la même nature, mais il sait qu'il peut, disons, qu'il est toléré, voyez-vous. Alors, nous attendons, bien sûr, la riposte russe. Mais ce qui est visé par Israël, c'est la Russie que je répète, les États-Unis. C'est-à-dire, c'est une pression exercée contre celui que l'on présente comme le patron d'Israël, de l'État d'Israël, je veux dire. Et en réalité, c'est un patron vraiment, on peut dire, très soumis.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, monsieur le professeur. On va tout de suite rejoindre à Paris Philippe Hugon, journaliste et reporter de guerre. Monsieur Hugon, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à toute l'équipe, à vos auditeurs et à Pierre Dortillier, bien sûr.
Ah, monsieur Hugon, et vous, dans quel contexte replacez-vous cette provocation anti-russe d'Israël, une première en effet depuis le début de la guerre en 2011? Et est-ce que là, il s'agit d'impliquer, comme disait monsieur Dortiguier, les États-Unis, alors dans une confrontation directe contre la Russie et l'axe de la résistance? Est-ce que là, il s'agit d'une politique de fuite en avant, d'autant plus que on va y revenir justement dans cette guerre des ponts et des pétroliers, bien sûr, c'est Israël qui est perdu.
Alors, moi je dirais qu'Israël mène une politique extrêmement aventureuse dans la région et cherche bien sûr à impliquer les Américains. Vous savez, Israël n'existe uniquement parce que les Américains sont là pour les protéger. Alors c'est une fausse protection puisque les États-Unis sont bien sûr en faillite financière et qu'ils perdent chaque année un peu plus d'influence. Donc Israël le sait, son temps est compté maintenant. Israël va disparaître dans quelques années, je dirais peut-être quelques dizaines d'années, dans 20 ans ou 30 ans, mais Israël sous cette forme va disparaître. Vous savez, Israël, c'est l'histoire d'un destin raté. C'est l'histoire d'un pays qui aurait dû devenir un phare au Moyen-Orient en rassemblant un grand nombre de religions et de cultures et permettre à toute cette région de rayonner à travers le monde. Et Israël a choisi la voie de la répression et du terrorisme, parce que c'est du terrorisme intellectuel, puisqu'on voit d'ailleurs aucun pays en Europe et également au Canada, aux États-Unis, on ne voit personne qui a condamné cet acte de terrorisme, parce que moi j'appelle ça un véritable acte de terrorisme, d'aller attaquer un pays qui ne les a pas attaqués. Alors quelles en sont les raisons? Il y a bien sûr des raisons économiques, hein, puisque vous savez qu'il y a de très grandes réserves de gaz et de pétrole au large de l'attaquer, justement. Mais je trouve que c'est une politique dangereuse, aventureuse, de la part du monde occidental qui cautionne l'attaque d'Israël sur la Syrie. Moi qui me suis rendu de nombreuses fois en Syrie, j'ai pu voir parmi le peuple syrien aucune animosité particulière envers les Israéliens. Alors aujourd'hui, cette politique menée par Israël amène encore un peu plus de colère, un peu plus de haine, un peu plus de ressentiment envers Israël. Et Israël va le payer au prix fort, un prix extrêmement fort dans les 20 ans qui viennent. Et cette politique menée par les dirigeants israéliens est une politique suicidaire qui va au détriment du bien-être du peuple israélien.
Merci pour ces éclairages, monsieur Hugon. Restez avec nous. Monsieur Dortiguier, après la bataille des pétroliers, où justement Israël a perdu face à la République islamique d'Iran, selon de nombreux analystes, Israël a plus de problèmes, de difficultés à protéger ses intérêts en mer. Selon de nombreux analystes, aujourd'hui, alors vient de commencer la bataille des ponts. Avec justement cette attaque risquée, cette politique aventureuse et dangereuse en Méditerranée contre le port de Latakia. Reste à savoir, tout en sachant que justement dans cette nouvelle bataille des ponts, c'est Israël qui va perdre, est-ce que simultanément, pour parler de Vienne, l'objectif serait de perturber le cours des événements et le cours des négociations nucléaires à Vienne dans le but de parvenir à un accord, ou bien Israël, en effet, a lancé, comme d'ailleurs il le prétend, d'empêcher la Syrie de devenir, selon les observateurs, la tête de pont des forces de la République islamique d'Iran face à l'entité d'agression israélienne.
Oui, on peut dire que c'est les deux solutions que vous proposez sont logiquement compatibles. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr le souci de faire monter la tension et par là même en visant l'Iran, puisque c'était l'argument politique employé par les Israéliens pour justifier le bombardement du Latakia. Et il est certain que ceci est une façon directe de troubler les négociations de Vienne. En effet, il y a un deuxième souci de la part d'Israël qui est également soutenu ici. Nous l'avons remarqué par notre presse, par les grands médias, c'est-à-dire de mettre en cause le Hezbollah et l'inscrire sous une organisation terroriste. Ceci, je crois, est à mon avis quelque chose qui est poursuivi par Israël. Je ne suis pas sûr qu'il le réussisse aux États-Unis, mais il peut le réussir à l'échelle européenne. Ce serait une sorte de concession, si je puis dire, que les Européens feraient à Israël. Il est certain que cette manière d'attaquer le Hezbollah est aussi, avant tout, une manière indirecte, mais fait forte, d'attaquer l'Iran. Voyez-vous, on ne représente pas ici dans la presse le Hezbollah comme une force patriotique, libanaise et syro-libanaise, mais on la représente comme un agent, toujours de ceci ou de cela, agent de l'Iran, agent. Voyez-vous, on ne voit pas tout le combat patriotique, on ne voit que des rapports de force. Voyez. Parce que toute l'histoire de la Palestine, toute l'histoire de la création de l'entité sioniste est, je vous assure, vraiment beaucoup plus ignorée en Occident aujourd'hui qu'elle ne l'était, par exemple, dans une génération quand nous avions, par exemple, une quarantaine, cinquantaine d'années. Alors ceci, Israël peut tout se permettre, disons, de ce point de vue. Et je crois que le fait de vouloir troubler, l'intention de troubler les accords de Vienne est juste. Il s'agit de maintenir les États-Unis, selon moi, à mon avis, dans un état, disons, d'incertitude. C'est-à-dire, on veut, disons, Israël essaie de paralyser des recherches tout à fait légitimes des États-Unis d'aboutir à des accords avec l'Iran. Et M. Hugon ne me contredira pas, ont besoin de ces accords. Ils en ont besoin sur le plan économique. Comme tous les Occidentaux, ils ont besoin, disons, de relations avec une grande puissance, voyez-vous, et d'adhérer non plus à un affrontement avec la Russie. Or, je dois dire que la politique israélienne, d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit en Israël même ou qu'elle soit ici, dans les représentations européennes ou autres, parce qu'elles existent, voyez-vous, veut pousser justement à cette confrontation des États-Unis avec la Russie.
Merci encore, monsieur le professeur. Monsieur Hugon, et vous, quel lien alors trouveriez-vous entre la récente attaque de l'entité sioniste contre le port de Latakia et les négociations en cours à Vienne?
Alors, c'est vraiment une position très ambiguë aujourd'hui que prend Israël, puisque, vous savez, le cheval de bataille un petit peu de tout ceci, c'est de dire l'Iran veut mettre la main sur la Syrie, veut mettre la main sur le Liban. Moi, je voudrais dire que l'Iran n'a aucune velléité de conflit avec l'Occident, avec les nations qui l'entourent. L'Iran n'a jamais déclenché de guerre contre ses voisins, ce qui n'est pas le cas des États-Unis qui ont déclenché des dizaines de conflits à travers le monde. Donc il faut arrêter de montrer l'Iran du doigt comme étant le diable de la région. Au contraire, l'Iran, c'est un pays qui peut justement stabiliser la région. Et ceci, il faudrait que pour cela, les États-Unis et l'Union européenne considèrent l'Iran comme un élément de stabilisation et comme un partenaire à la fois économique, mais également un partenaire politique, un partenaire diplomatique. Mais tant que nous aurons ces politiques agressives de l'Union européenne et des États-Unis, on arrivera toujours à une situation stérile, une situation qui n'avancera pas. Et on peut le voir d'ailleurs pour les accords de Vienne. Hein, eh bien, comment se fait-il qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on traîne encore les pieds pour trouver des solutions de paix afin de préserver cette région des conflits? Moi, je pense qu'Israël est aujourd'hui le facteur de déstabilisation. Alors, il est vrai qu'Israël joue sa survie, mais ce n'est pas en déclenchant des conflits et en allant bombarder une région syrienne, et notamment la région d'Attaquer, qu'on va arranger les choses. Au contraire, Israël est en train de se perdre dans des actions de terrorisme, parce que moi j'estime que l'attaque du port de l'Attaquer, c'est une action de terrorisme. Hein. Alors ça leur allait bien d'ailleurs aux gouvernements occidentaux de critiquer la politique du Hezbollah, mais que fait Israël? Qu'a fait Israël sur le port de l'Attaquer? Donc il faut remettre quand même les choses à leur juste place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui dans les médias occidentaux, eh bien, ils ont définitivement pris position pour les États-Unis et pour les dirigeants européens, et ils ne disent plus la vérité. On a 4 chaînes d'information en France, eh bien, c'est 4 chaînes de désinformation. Ils ne font plus de l'information, mais de désinformation. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir une véritable information, il faut se tourner vers les médias alternatifs pour voir un petit peu quelle est la situation réelle dans ce monde. Et on voit aujourd'hui que les États-Unis, qui sont dans une situation économique épouvantable, cherchent par tous les moyens à garantir leur approvisionnement pétrolier, cherchent à garantir leur économie, mais c'est un pays en faillite financière. Dans les 5-6 ans qui viennent, nous allons connaître dans le monde occidental un effondrement économique sans précédent. Je ne parle pas d'une petite crise comme 2008, qui n'était même pas une crise, qui était plutôt une contraction des marchés, mais je parle d'une crise qui sera pire que celle de 1929, parce que le monde entier et l'Union européenne sera englobé dans cette crise. Et personnellement, je pense que ça va être une très bonne chose pour la paix dans le monde, car ça remettra un certain nombre de pays occidentaux, bien sûr, à la place qui est la leur.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Dortiguier. M. Dortiguier, M. Hugon l'a rappelé d'ailleurs à juste titre, la République islamique d'Iran est une grande puissance régionale, alors un partenaire économique pour les pays occidentaux, et en l'occurrence les pays européens, et bien entendu un facteur de déstabilisation dans la région. Au contraire, l'entité sioniste l'a bien montré au cours des dernières années, des dernières décennies en effet, toujours à chercher à déstabiliser en effet la région par ses attaques de terroristes en quelque sorte. Ceci étant dit, est-ce que pour les milieux politiques et médiatiques occidentaux, le temps n'est pas venu de revoir leur position, d'ouvrir les yeux sur la réalité, comme disait d'ailleurs M. Hugon?
En effet, c'est ce que d'ailleurs nous cherchons en France avec peut-être... à travers ces élections présidentielles. Nous pensons, vous savez, que la France doit présider l'Union européenne. Et je dois dire que nous espérons que le réalisme en particulier de la France et de l'Allemagne, ira dans ce sens. Quelles que soient les déclarations, du reste, les protestations de soutien qui sont des protestations verbales, voyez-vous, envers l'entité sioniste. Je crois que le réalisme l'emportera, et d'autant que, comme l'a dit M. Hugon, ce réalisme était évidemment fortifié par la perspective d'un déséquilibre financier international, vous savez, avec une dette beaucoup plus croissante, etc., qui est inimaginable. Alors je pense qu'il y a aussi des tensions à l'extérieur, en Ukraine et autres, qui nous font évidemment considérer la Russie comme, disons, un concurrent. À défaut d'être un adversaire, concurrent à tout point de vue. Mais il est certain que l'Europe doit dire quoi, les dirigeants européens, de ce point de vue, ne peuvent être que réalistes, voyez-vous. Mais je crois que l'entité sioniste, malheureusement, est comme un enfant gâté qui essaie, disons, de non pas vivre sur un centre de gravité qui lui soit propre, en résolvant des questions de justice, etc. Avec cette sorte de victime, se croit toujours 30 ans auparavant. Non, les choses ont changé. Je ne prononce pas sur le fond historique, bien sûr, mais il faudrait que l'État d'Israël et l'opinion publique, surtout celle qui est un peu de gauche aujourd'hui, qui a remplacé M. Netanyahou, soit réaliste. Et je crois malheureusement que ce sont de grands enfants gâtés, je veux dire, avec des armes. Et il est certain que s'il n'y a pas, de la part de ses parrains, je reviens à l'expression tout à fait au début, qu'ont été la Russie et les États-Unis, vraiment une sévérité, un rappel à l'ordre de l'entité sioniste, à ce moment-là, ce sont ces deux grandes puissances elles-mêmes qui seront amenées à s'affronter. Voilà exactement comment se présente, disons, la situation. Et bien sûr, l'Iran, lui, n'a qu'à rester ce qu'il est, c'est-à-dire une puissance en développement technologique. L'Iran n'a pas à se lancer dans des aventures, c'est également non plus ni les États-Unis ni la Russie.
Monsieur le professeur Pierre Dortguier, philosophe et politologue, Philippe Hugon, journaliste et reporter de guerre, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
Merci.
Bonne
journée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
Jamalzadeh, le pionnier de la nouvelle persane. En 1921, la revue KV a publié un récit, Il est d'où le persan, Farsi chez Karast, et annonça ainsi la mise au monde d'un nouveau genre littéraire dans le monde des lettres persanes, la nouvelle. Ce récit avait été rédigé par Mohammad Ali Jamalzadeh, dont le recueil des 6 premières nouvelles a été publié à la fin de la même année sous le titre Yekibudo Yekinabut, Il était une fois. Tout en jetant les bases du récit moderne, ce livre marqua la fin d'une littérature compliquée, dite constitutionnaliste. Avec Jamalzadeh, écrit Barahini, la prose constitutionnaliste entre dans le domaine de récit. Récit, conte. L'idée d'écrire dans une langue simple, proche de celle du peuple et dépourvue des expressions compliquées, avait déjà été lancée bien avant la publication de Yekibudo Yekinabut. De ce fait, ce livre s'inscrit dans un courant dont l'origine se situe au XIXe siècle. Une œuvre éminente qui joua un rôle important dans l'apparition de la prose narrative de Jamalzadeh et Charan Parand de Dehoda. Des Charanparand paraissaient dans le journal Sure Esrafil au lendemain de la révolution constitutionnelle. Charanparand reste à la croisée des chemins entre la littérature traditionnelle et la littérature empruntée à l'Occident. Selon Barahini, Charanparand est un pont vers une littérature qui cherche encore à se connaître et qui plus tard atteignit sa perfection d'abord vers 1920 avec Jamalzadeh. Jamalzadeh est un écrivain actif qui a rédigé de nombreuses œuvres. Outre ses œuvres romanesques, il a également effectué plusieurs recherches, traductions, critiques, etc. Les œuvres romanesques. Yekibudo Yekinabut, Il était une fois, est la première production littéraire de Jamalzadeh. Ce livre comprend 6 nouvelles, dont la première s'intitule « Il est d'où le persan » Farsi chez Karast. Jamalzadeh a écrit ces histoires dans l'intention de donner des exemples de persans quotidiens et illustrer les idées exposées dans sa célèbre préface. La plupart des critiques de littérature iranienne considèrent ce livre comme la meilleure œuvre littéraire de Jamalzadeh. Ils croient que dans ses œuvres suivantes, il n'a fait que se répéter et que dans cette répétition, il a échoué à reproduire quelque chose du même niveau. Les histoires de Jamalzadeh ont été traduites en différentes langues. Ainsi, quelques-unes de ces histoires ont été traduites par Stella Corbin et Hassan Lotfi en français et publiées sous le titre de « Choix des nouvelles » en 1959. La traduction française de cette histoire fut publiée en 1962 dans le journal de Genève. La dernière de ses œuvres littéraires, 1978, se présente aussi comme un adieu. Notre histoire est arrivée au bout. Recueillement Besarecid, dont l'absence de portée littéraire est affirmée par Jamalzadeh lui-même. Peut-être que l'on peut considérer cette histoire comme les propos d'un exilé à ses compatriotes, étant entendu qu'il est exempt de tout attrait littéraire ou de portée historique. Il y effectue la description d'un village idéal, c'est-à-dire d'une sorte d'utopie avec toutes ses qualités et ses beautés. Parmi les autres œuvres littéraires de Jamalzadeh, on peut citer « Asile d'aliénés » d'Arul Majanin, 1942, « Sahraye Mahshar » 1944, « Le costaud des démons » Oltachan et Divan, « L'histoire de la canalisation d'eau » Rahab Namé, 1947, Masoumé Shirazi, 1954, ils sont tous de la même espèce, ou Esfahan Namé, 1955, chef-d'œuvre, Shahkar, 1958, L'Ancien et le Nouveau, Kohne Vano, 1959, Il n'y avait que Dieu, Reylas Roda Ichkas Nabout, 1961, et Petite histoire pour enfants barbus. 1974. Traduction. Jamalzadeh présenta sa première traduction d'une œuvre de Saint-Pierre durant sa jeunesse et n'en effectua plus pendant de longues années pour ensuite traduire Wilhelm Tell de Schiller 1955, Don Carlos et l'avare de Molière, 1956-1957, L'ennemi du peuple d'Ibsen, 1961, Rambar Ali et la guerre turkmène du comte Gobineau, 1963-1978. Les traductions de Jamalzadeh furent réalisées de deux façons différentes, en traduisant certaines œuvres, comme celle de Schiller ou de Molière, Jamalzadeh suivit scrupuleusement le texte original, mais en traduisant d'autres, comme Rambar Ali de Gobineau, il prit ses distances par rapport au texte original pour parfois le remanier et ainsi l'adapter au goût du lecteur iranien. Travaux de recherche. Un trésor appréciable où la situation économique de l'Iran est son œuvre la plus importante dans ce domaine. Parmi ses autres travaux de recherche, on peut également évoquer l'histoire des relations irano-russes, basée sur les sources les plus fiables de l'époque, ainsi que sur les recherches faites par les Européens jusqu'en 1925. Dictionnaire des mots populaires est un travail dont on trouve l'esquisse dans Yekiboud et Yekinaboud. L'intérêt que Jamalzadeh porte à la langue populaire l'incita à ajouter en annexe de ses 6 premières nouvelles un lexique de quelques mots et expressions de cette langue. Premier pas d'un effort considérable qui donne un jour, 40 ans plus tard, à la rédaction d'un dictionnaire contenant près de 7000 mots et expressions. Jamalzadeh a également publié de nombreux articles dans les domaines de la littérature, de l'histoire, de la sociologie politique, etc. Ceux qui furent publiés dans la revue KV sont en général plus denses et recherchés. Ses recherches les plus importantes dans le domaine de la littérature sont Bangenei, L'appel du roseau, dans lequel Jamalzadeh présente les histoires du Masnavi de Molavi, Téhéran 1958, et d'un petit livre intitulé « Quelques éléments sur Hafez, Genève 1987 ». Et enfin, « Lettres et mémoires ». Jamalzadeh écrivait souvent ses souvenirs et en parlait beaucoup. Ses mémoires se divisent en deux parties. L'une comprend l'histoire de ses amis et de ses compagnons, l'autre comprend l'histoire de la vie de son père et de sa vie personnelle. Certains de ses écrits furent publiés dans des revues telles que Rahnamaye Kitab, Yagma, Vahid, Ayande, etc. Jamalzadeh était toujours en correspondance avec des amis, des écrivains, et lorsqu'il recevait une lettre, il répondait toujours de façon prolixe à son expéditeur, et notamment à chaque auteur, lui faisant parvenir son ouvrage pour lui communiquer ses impressions et critiques. Une grande partie de ses lettres sont aujourd'hui publiées parallèlement à la réédition de ses œuvres.